With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Chers auditeurs et auditrices, quelle période? En plein confinement dû à la crise sanitaire mondiale que nous vivons, voici le 15e épisode de On the Verge, comme promis. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et restez chez vous. Cet entretien avec Erwan est particulier. Vous découvrirez toute son histoire en 2 épisodes. Assurez-vous, s'il vous plaît, d'être dans de bonnes conditions pour écouter son histoire. Erwan a subi l'horreur et l'inconcevable, l'inceste par sa mère. Il va raconter avec beaucoup de courage et de sensibilité ce qu'il a vécu. En plus du drame qu'il a subi enfant, Erwan va raconter son parcours dans sa sexualité, les limites qu'il a dû aller chercher par lui-même, la drogue, les rencontres, quelques histoires d'amour ou pas, qui l'ont porté, dévasté, emporté. Merci de bien lire les notes qui accompagnent cet épisode avant de commencer son écoute. Merci infiniment à Erwan pour sa confiance. À bientôt.
Salut Erwan.
Salut.
Ça va ?
Ça va, stressé.
Alors il ne faut pas, on boit un verre de cidre que tu as apporté, je suis entourée des cadeaux que tu m'as apporté, ce n'est pas un message subliminal, mais j'apprécie beaucoup le geste. Alors Erwan, tu as 34 ans.
C'est ça.
Tu m'expliquais juste avant qu'on ouvre le micro que tu as une vie à la campagne, au vert, et que tu as passé 17 ans à Paris.
Oui.
Tu es heureux ?
Oula.
Oui, bon, ok.
Fais un podcast à part dans ce cas-là.
Ok, bon. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Erwan, c'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ?
Alors cette question, je me la suis posée parce que du coup, j'avais bien entendu sur les autres que tu avais posé cette question.
Ouais.
Et au départ, il n'y a pas grand-chose qui venait à part des choses assez glauques que je me suis dit « Putain, mais je ne vais pas commencer par ça. Putain, merde, fais chier. » Et j'ai plein de souvenirs qui sont revenus beaucoup plus cool.
Ah.
Et je me dis tiens, en fait, c'est vrai que c'est, j'en ai... Et c'est assez... C'était assez jeune en fait.
Tu arrives à identifier ton âge à peu près à ce moment-là ?
Ouais, bah, j'étais à la maternelle, donc très jeune.
Donc 5, 4, 5, 6 ans.
Ouais, ça doit être 5 ans, on va dire 5 ans. Ouais. Et je me rappelle alors, qu'avec, alors, je dirais pas le nom de famille, mais qu'avec Sophie et Baptiste, on allait faire l'amour derrière les buissons à 3 déjà.
D'accord, ok, on pose.
Je me rappelle de ça et quand je me suis rappelé ça, ça m'a fait beaucoup rire. Donc. Ouais, ça c'est mon premier souvenir d'une certaine excitation, on va dire.
Et se faire l'amour, vous le concrétisiez comment quand enfant à 5 ans ?
Tu mets 2 vers de terre debout, tu vois,
ouais.
Et qui font des ondulations.
D'accord,
comme ça, et qui et voilà derrière les buissons. Et en fait, des fois Baptiste il y allait avec elle, moi après j'y allais, et je crois qu'à un moment on y allait tous les trois, et c'était, mais il y avait rien. Je pense qu'on savait pas trop ce qu'on faisait en fait.
Donc ça c'était la maternelle.
Ouais.
Tu fais le vers de terre. J'ai l'image, hein, pardon.
C'est venu tout seul là maintenant, mais maintenant que j'y repense, ça me fait encore plus rire. Mais oui, je faisais le verre de terre avec Sophie et Baptiste.
Okay. Voilà, la team verre de terre.
C'est lombrique, pas lubrique.
C'est ça. Pas mal, pas mal. Donc, tu es ce petit garçon. Est-ce que, après, tu as quelques souvenirs de discussions à la maison ?
Alors, il y en a eu. Il y en a eu même beaucoup. Mais je me souviens, un des autres souvenirs que j'ai, c'est que j'étais tombé amoureux d'un garçon. Première fois que je tombais amoureux, c'était d'un garçon.
D'accord.
Il s'appelait Tristan.
Ok.
Je devais avoir 6 ans, j'étais au judo. J'étais fou amoureux de lui. Moi, encore aujourd'hui, je peux le dire, je le trouvais magnifique en fait.
Mm-hmm.
Mais je ne sais plus quelle gueule il avait, mais j'ai encore cette impression que j'ai en moi, quoi, cette impression que j'avais en moi quand j'étais petit. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, ma mère a fait beaucoup de conneries, on va la revenir derrière, mais en tout cas, il y en a une qu'elle n'a pas fait. C'est que quand je suis allé la voir pour lui dire que j'étais amoureux d'un garçon et que je trouvais ça bizarre. Que peut-être j'étais pas normal ou
parce que dans ta tête c'est un garçon, c'était un homme, une femme.
Bah oui, à cet âge là en plus pour la question c'est pas encore posé.
Oui, puis les référentiels
dans les années 80 on n'était pas encore dans une, moi j'étais en Lorraine, tu vois, voilà, c'est et elle me dit écoute mon fils, ça s'appelle homosexualité et que tu sois homo ou hétéro, je t'aimerais.
Waouh.
Donc voilà. Donc ça c'est un deuxième souvenir mais pas très sexuel, beaucoup plus sur le
sentiment.
Ouais, sur le sentiment.
Ça a défini après ton trait pour les garçons ou pour les filles, c'était
non.
Tu t'es défini
non,
par rapport
pas du
à
tout.
Cet amour.
Même pas en plus.
Okay.
Ça a rien défini du tout. Justement, je pense que cette ouverture juste derrière n'a rien défini parce que c'est voilà que tu sois homo ou hétéro, elle a mis un nom dessus, homosexualité, voilà. Donc non, je pense pas que c'est défini quoi que ce soit. Après, il y a d'autres souvenirs. Je vais enchaîner sur les souvenirs, on va dire, de qui m'appartiennent en tant que petit garçon. Mm-hmm. Puis je vais en dire d'autres après qui appartiennent en tant que d'autres choses moins cool, on va dire. Et après, je pense qu'il n'y a rien eu réellement. Et il y a eu la préadolescence et mon meilleur pote. Et on était tous les deux bien portés sur le cul, en fait.
Début de collège ?
Ouais, 11, 12 ans, on va dire, un truc
donc
comme ça.
Donc début de puberté.
Ouais. Et on sentait, voilà, ça commence
à monter.
À bien monter, ouais.
Tu fais un geste, genre, ouais.
Ouais, non, mais vraiment, c'était à l'intérieur, tu vois, il y a un truc qui monte qui est, voilà, déjà très. Et moi, la sexualité était déjà très présente quand même dans toute mon enfance, de par plein de pensées, plein de.
Ça, c'est quelque chose que t'es arrivé à projeter, à comprendre. Est-ce que, justement, c'est. Je mets des guillemets, mais c'est pulsion. T'arrivais à en parler ou ça restait ton jardin secret ?
Bah, le problème, non, c'est que là, c'est là où tout le truc le plus... Là, ça en attaque le dur, là. C'est qu'en fait, moi, j'ai vécu une relation incestueuse avec ma mère, en fait.
Okay.
Ma mère était incestueuse avec moi. Donc, j'ai eu la sexualité beaucoup plus jeune, en fait. Mais elle était pas... Elle m'appartient pas quelque part dans le sens où je l'ai pas choisie, celle-là.
Alors, pour être précis, est-ce que c'est une relation incestuelle ou incestueuse ? La différence se situe dans l'acte qui est incestueux.
Eh oui, alors là, c'est toute la question de la femme sur le petit garçon. Donc,
c'est
du coup, à quel moment on passe de l'incestuel à l'incestueux ?
C'est quelque chose que tu... Pardon, hein, je te coupe, mais pour être précis, est-ce que c'est quelque chose que tu as défini ou que tu as été aidé pour le définir par des professionnels de la santé ?
Alors, en gros, il y a eu plein d'allers-retours. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été au courant. C'est pas quelque chose qui a disparu de ma mémoire, etc.
D'accord.
J'ai grandi avec ça.
Oui, c'est pas un traumatisme que tu as enfoui qui a ressurgi ?
Pas du tout. Non. Après, moi, je suis en thérapie depuis 6 ans, donc c'est quelque chose qui est un énorme sujet
et qui
commence à s'éloigner de plus en plus puisqu'il commence à être bien réglé. Quoi, bien réglé, en tout cas, les choses ont bien avancé.
Et...
Donc après, ça a été, est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que j'ai halluciné ? Est-ce que, voilà. Après, c'est pour aller là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'avais 12 ans et demi, je suis allé habiter avec ma mère. Parce que j'habitais pas avec elle à ce moment-là, j'habitais chez mon père, ils ont jamais été ensemble, donc j'ai toujours été entre chez, soit chez l'un, soit chez l'autre.
Même petit, tout petit ?
Ouais, ils sont séparés avant ma naissance, quoi, donc voilà.
D'accord.
Comment dire, je vais habiter chez elle et on s'engueule tout le temps, en fait. Ouais, je suis en pleine adolescence. Après, ma mère est particulière, elle est, quoi, moi je lui parle plus depuis 15 ans maintenant.
Ça peut se comprendre aussi.
C'est quelqu'un qui est vraiment pas quelqu'un de bienveillant. J'ai pas vécu que ça comme abus, on va dire. Il y a eu des abus psychologiques.
C'est une relation très toxique, en tout cas.
Ouais, clairement, franchement, j'ai pris. Et pourtant, ça avait l'air génial, hein, puisqu'en fait, j'avais accès à des choses. Moi, je faisais la teuf avec elle, j'allais en boîte de nuit, j'avais 8 ans, j'ai vu de la drogue, j'ai vu. Voilà,
oui.
Moi j'ai le souvenir d'être sur les épaules d'un énorme gay dans une boîte à Strasbourg quand j'avais 8 ans, tu vois. Voilà, c'est le truc que je trouvais génial quand j'étais enfant, mais qu'un enfant devrait jamais vivre, en fait. Donc,
ta mère avait, j'imagine, hein, je vais pas faire de pensif, ouais. Mais elle-même, je pense, un vrai sujet psy à gérer.
Ah oui, moi c'est une famille ravagée de ce côté-là par l'inceste.
Mm-hmm.
Ils sont tous.
Elle-même avait subi des.
Je pense, on en a jamais parlé directement, mais j'en suis grandement persuadé. Ma tante, sa sœur, oui, elle, c'est clair. Voilà, on est sur une mise en abîme de la violence familiale de génération en génération, je pense.
Mm-hmm.
Donc ouais, il y a du lourd, quoi, derrière, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça envoie bien, quoi. Et en fait, moi, à l'âge de 12 ans, 12, 13 ans, donc on commence à s'embrouiller. Puis je vois, de toute façon, ce qui s'est passé entre nous n'était pas normal. Ça faisait un moment que je m'en doutais. Et un jour, je vais la voir et je lui fais, écoute, voilà, pourquoi on s'embrouille tout le temps ? C'est pour ce qui s'est passé quand j'étais enfant. Je lui en parle comme si j'étais sûr que pour elle, c'était, voilà, c'est arrivé.
Aussi actuel,
et puis qu'elle le savait, mais qu'on n'en parlait pas, quoi. Là, je me fais insulter de tous les noms. J'ai rêvé, j'ai halluciné, j'ai machin.
En même temps, tu la mets en face de l'horreur. Hein.
Ouais. Bah moi, pour moi, en fait, mais moi, j'avais vécu avec ça. Il y avait un truc qui... C'était pas l'horreur pour moi. Tu vois, il n'y avait pas encore le mot d'inceste. Il n'y avait pas encore le mot... Voilà, ça s'est passé.
Tu savais que c'était pas normal.
Je savais que c'était pas normal. J'ai commencé à kiffer les filles. Tu vois, j'avais 13 ans, 14 ans. Donc, il y avait un truc qui avait... Voilà. Et en fait, je lui en avais parlé parce que je me suis dit la seule chose qui va me sortir de ça, là, je sens que ça monte et que ça va partir en couille, c'est que je lui pardonne, en fait. Donc j'arrive à 13 piges en disant écoute, je te pardonne, mais tout ça, voilà, faut qu'on en discute, quoi. Et là, le nid, quoi, total, quoi.
Ça a dû être tout aussi dur.
Ah ouais, je crois que c'est ce que je lui en veux plus pour ça que le fait que
l'inceste,
ouais, je crois. Ouais, je crois que j'en veux plus pour ça que pour le.
Ah, surtout qu'à 13 ans, tu fais quand même preuve d'une maturité qui est assez. Enfin, pour un ado de 13 ans, c'est déjà très fort quand même d'être capable de, tu vois, de dire à sa mère, t'as fait enfin l'horreur.
Ouais.
Je suis OK pour avancer parce que j'ai conscience que c'est comme ça que ma soupape, ouais, elle va, sinon je vais éclater. Et elle, en tant qu'adulte, elle n'est pas capable d'assumer ça.
Ah ouais, moi, ça a été très dur. Puis après, donc, du coup, persuadé que j'ai rêvé. Parce, oui, que tout est un peu en rêve, en plus, dans ma tête. C'est-à-dire que c'est un enfant. Donc,
Après, c'est aussi une façon de se protéger. Enfin, tu,
ouais,
vois,
en plus, voilà, il y a ça. Puis ça se trouve, j'en ai rêvé aussi. Parce que du coup, bien comme sûr, le désir était passé à l'acte sur certaines choses, il y a des rêves, je devais en rêver.
L'inceste, c'est le tabou dans toutes les civilisations, le monde animal, enfin c'est quand même...
Ah ouais, ouais, on est sur du freudien total, là, on peut y aller à fond, voilà, et du coup... Mais ce qu'il y a, c'est que ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans, il y a des choses dont je me rappelle vraiment après, mais qui sont revenues en fait, où elle me laissait dormir avec, nue jusqu'à 11 ans, je crois, en fait, faire des siestes. Et je me souviens me frotter à elle, et qu'elle, bien sûr qu'elle dormait pas, quoi, il y a un moment, de toute façon, dormir nue avec ton gamin à 11 ans... Voilà, donc voilà, il y a un truc qui se je sais pas comment ça s'est arrêté. J'ai pas de...
Est-ce que tu penses que le fait que tu aies été chez ton père avant, c'est une façon que lui avait de te protéger?
Pas du tout, mon père se doutait de rien, je pense.
D'accord.
Il l'a su plus tard. Ça a été entendu, ça a pas été du côté de mon père, ça a été quoi. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu avec lui parce qu'il... Moi, je pense qu'il y a de la colère contre lui qui remonte, déjà, de ne pas m'avoir protégé.
De ne pas l'avoir vu,
ouais,
compris.
Moi, j'étais un enfant très éteux, quoi, très... Il y a un truc, ça se voyait qu'il n'allait pas, mais lui, il n'a pas vu que c'était ça qui pouvait ne pas aller, en fait, quand je rentrais à la... Ma mère était manipulatrice, elle essayait de détruire la vie de famille du côté de mon père qu'il avait reconstruit, etc. Enfin...
Oui, la toxicité, elle est
sur
tous
les
plans.
Ouais. Là, on est plus sur la sexualité, donc ça, je vais passer dessus, mais voilà, il y a quelque chose qui va sur du lourd, donc qui cachait un peu tout ça, qui pouvait venir de... Voilà. Donc
oui, après, c'est difficile aussi pour un parent d'imaginer que l'autre soit capable de ces horreurs-là. Ton cas est assez... Enfin, je ne vais pas dire rare parce que je n'ai pas de stats, mais souvent l'inceste est commis par la figure paternelle. Mmh, et c'est vrai que parfois, les mères se tombent des nues parce qu'elles ne pensent pas une seconde que leur mari ou le père de leurs enfants est capable de cette horreur-là.
Mais après, ils se connaissaient très peu. Quand elle est tombée enceinte, elle avait 18 ans, lui en avait 26. Tu vois, puis moi, je vois quoi, quand j'avais des... Enfin, moi.
Elle n'a pas eu conscience de sa maternité, elle lui a pas donné. Enfin, il n'y a pas eu de prise de conscience de sa maternité.
Je sais, c'est-à-dire.
Elle n'a pas. Parce que tu sais, il y a un moment, en fait, après l'accouchement, généralement, et puis le travail hormonal aussi qui se fait pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle la matrescence, qui est en fait un peu en relation avec l'adolescence, c'est-à-dire que hormonalement, il se passe un vrai truc, et c'est observé de plus en plus, d'ailleurs, c'est constaté par les professionnels de la santé, c'est que tu vas développer des hormones et même des facultés du cerveau qui vont te donner la protection de l'enfant, la réassurance, enfin, tu changes un peu ta personnalité dans la matrescence, où une nana qui fait beaucoup la teuf, etc., va devenir, sage.
Ouais, mais il faut voir la définition de quelle est la définition de l'amour pour la personne. C'est-à-dire que si l'amour est passé par la maltraitance, va revenir renforcer ces choses-là,
et
je pense.
Tout est le débat de ça, de, comme tu dis, la mise en abîme, la reproduction.
Voilà, elle a fait quand même moins que ce qu'elle a vécu, donc elle a quand même arrêté un petit peu le truc. Et puis moi, j'ai décidé que je serais le maillon final, quoi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. Et c'est un but depuis ma jeune adolescence, quoi. C'est-à-dire que j'ai décidé ce jour-là, en pardonnant à ma mère, que ce serait la fin.
Donc quand elle te dit que c'est tout ce que tu racontes, ça n'a pas existé, toi t'es en pleine adolescence, donc ça doit vriller. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau?
Pas tant que ça. Pareil, je pense à un autre choc, donc il y a un truc qui se passe pas vraiment, tu vois, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, mais que je vis encore aujourd'hui, on va dire, mais qui... Je pense que j'acquiesce sur le côté. Elle est tellement violente, ma mère, au niveau de même ses paroles, etc. Elle va, quoi, là, ce truc qui tape là où ça fait mal, que je pense que je lâche l'affaire, comme d'hab. Quoi, je lâche un truc et puis je continue dans mon coin, quoi. Mais c'est un moment très compliqué pour moi, l'adolescence. Moi, je suis pas du tout aimé à l'école. Je suis un enfant vraiment différent. J'ai vécu des choses que aucun, quoi. J'étais en rave, j'avais 11 ans, quoi, tu vois. J'étais. Oui. Mon beau-père voulait m'emmener en Technival, je devais avoir 11 ans aussi. Heureusement, ma mère a dit non au dernier moment. Quoi, heureusement, elle a dit non. Ils ont dit non au dernier moment, mais voilà. Lui était cocaïnomane. Moi, j'ai vécu des choses. Alors, c'était incroyable à raconter, mais j'étais pas comme un enfant, quoi.
Oui, t'avais quand même. T'étais de côté, marginalisé par justement une famille qui était pas du tout équilibrante.
C'est ça. Et en fait, en plus, moi, j'étais jamais à ma place. C'est-à-dire que ma mère, en plus, me mettait comme un peu une bête de foire depuis tout petit, dans le monde des adultes.
Bah oui, parce que t'étais le seul enfant à chaque fois.
Le seul enfant, puis je parlais comme un adulte, en fait. J'avais un truc où j'étais. En fait, ma mère a rien su dans son enfance, donc elle a décidé qu'elle me dirait tout. Sauf que j'étais très curieux.
D'accord.
Et que bah, j'ai tout su.
Donc chaque question avait une réponse.
Chaque question avait une réponse. On passait des heures, un peu, tu vois, là, comme ça, là, tu vois, sur, je me rappelle, à quand elle habitait à Strasbourg, des après-midi entières, sur le canap', à discuter de la vie, de la philosophie, de machin. Mais j'avais 8 ans. Là,
mais avec des mots d'adultes.
Mais avec des mots d'adultes. Elle me disait tout.
Sans filtre.
Aucun filtre.
Donc ton innocence, non préservée.
Il y a tout qui est, il y a tout, strate par strate, avec des explications, avec machin. Donc j'ai commencé à développer une philosophie qui n'était pas la mienne, qui était la sienne, puisque à cet âge-là, on, quoi.
Aussi, on absorbe.
On absorbe, en tout cas. Après, je l'ai vite développée aussi pour moi, et je la comprenais en plus, donc je pouvais la réutiliser. Donc en gros, petite bête de foire, on me mettait dans une soirée, je parlais de couple avec des nanas qui avaient.
Waouh.
Tu vois, j'étais posé là, puis. Voilà. Enfin, il y avait un truc très bizarre. En fait, j'ai vécu. Ça va conditionner beaucoup de choses sur la suite de l'histoire, en fait. C'est que j'ai vécu des sensations extrêmes en tant qu'enfant, qui sont toutes celles-là, de toute puissance. Tu vois, les enfants stars, j'avais l'impression... Tu vois, franchement, oui, je me rapproche de ça. Il y a un truc comme ça, tu vois. Quand j'entends parler des fois des histoires comme ça, je me sens très similaire à ça, même si... De toute façon, pour un enfant, que le microcosme, ça soit une pièce ou
oui,
un pays, ça revient au même, le truc. Et,
oui, l'attention est sur
ça,
lui.
Tant que c'est l'entourage qui le voit comme ça, donc il y avait un côté un peu comme ça. Et puis par la sexualité, c'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai eu accès à quelque chose que j'aurais jamais dû avoir accès, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un stop à ça, au complexe d'Oedipe. L'Oedipe vient, le gamin essaye, il y a un stop et toute cette excitation, il la garde pour lui, puis il se construit avec.
Avec ses frustrations qui va.
Avec ses frustrations et ses machins qui vont se libérer peut-être ou pas à l'adolescence ou plus tard, ou voilà, chacun sa vie, mais. Et moi, non, moi, il n'y a pas eu de non en fait. Donc en fait, je suis aussi quelque part, à me dire que c'est moi qui étais responsable, puisque c'est moi qui étais désirant, voilà. Etc. Enfin bon. Tu viens ce que tu disais, ça va, tu vas pas être trop mal à l'aise déjà.
Non,
c'est moi qui aurais dû poser la question.
Non, non,
t'as des sujets que tu veux
va,
pas que.
Non, non, mais en fait, ça me. Je couperai ça, mais ça me met en colère.
Ouais, ouais, ouais.
Ça
je
m'étonne,
bah,
tu peux pas. Enfin.
C'est naturel. Bah, parce que ta
truc,
réaction est naturelle.
Quoi, tu vois, c'est vraiment comment tu peux faire ça.
Ouais.
Comme. Enfin.
Ouais, ouais, non, mais t'as. T'excuses pas, parce que déjà, premièrement, ce genre de réaction, que tu la coupes ou pas, elle est importante pour moi. Parce que ça vient mettre dans la réalité des choses. Par exemple, moi, je fais une thérapie depuis 7 ans. Je fais un groupe de thérapie aussi une fois par mois. J'ai trouvé la thérapeute, quoi. J'ai trouvé ma thérapeute, c'est
d'accord.
Le maître.
C'est okay.
C'est cool. Thérapeute de ouf. Chance de quoi ? La chance, non, je l'ai cherché. Hein. Et voilà, c'est les choses que j'ai pu raconter devant d'autres personnes et les retours qui ont été eus à vomir, des gens qui ont envie de vomir. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ça parce qu'en fait, ça vient replacer les choses où elles devraient être. Parce que moi, même encore aujourd'hui, à 34 ans, il y a des choses, je sais pas où me placer, je sais pas qui.
Oui, ton curseur, il est complètement.
Puis surtout, c'est quelque chose dont je parle très facilement depuis toujours. Tu vois, là, je suis assez à l'aise pour en parler.
Ouais, c'est vrai.
Et parce que, en fait, moi, ma sortie pendant un moment, c'était bonjour, je m'appelle Erwan, je me suis violé par ma mère quand j'étais petit, quoi. Tu vois, je faisais pas ça, mais je le disais très facilement en soirée. Ce qui m'a valu beaucoup de gens qui sont venus se confier à moi. Donc, voir l'étendue des dégâts au niveau de l'inceste et du viol sur les enfants, en fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'inceste, il y a aussi la pédophilie, etc.
Bien sûr.
Donc, de voir l'étendue qui existe autour de nous.
Et est-ce que, alors, avec des pincettes, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Alors, le mot n'est peut-être pas le bon, mais rassuré de savoir que tu n'étais pas seule dans cette douleur ?
Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, ce qui me faisait du bien, c'était d'aider ceux qui en avaient besoin à ce moment-là, en fait. C'était de prendre une place de quelqu'un qui pouvait, de par du travail que je faisais déjà depuis que j'avais l'âge de 13 ans, tu vois, sur moi-même par rapport à ça. Il a débuté à ce moment-là. Je suis encore dedans. De toute façon, ce sera... jusqu'à ma mort, hein, donc
je
voilà.
Ouais.
Mais c'est voilà, ça avait une place centrale aussi dans ma vie au niveau de mes remises en question, quoi. Et je me souviens d'une petite nénette, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça, et on est chez un pote en Bretagne, et puis on est bourré, et puis je raconte ça, et puis elle part, elle revient pas, on est chez elle en plus, et il y a une de ses amies qui vient me voir, elle fait Erwan, je sais plus comment elle s'appelle, machin, elle est partie, elle veut parler qu'à toi. Et là, j'y vais. Elle était en pleurs, pas possible. Et en fait, son frère l'avait violée pendant 4 ans quand elle était petite, etc. Qu'elle me raconte tout ça, machin et tout. Et là, je lui dis, écoute, je vais pas te mentir. Hein. Tu vas en chier. Voilà, ça s'arrangera. Elle me raconte qu'elle dort avec des somnifères, que c'est son médecin qui lui donne, qui machin, nanana. Et je me rappelle ce jour-là, en fait, j'arrive, alors avec comme un gamin de 18 ans, mais bon, j'y vais un peu cash et je lui fais, écoute, de toute façon, tu vas en chier. Il n'y a aucune solution pour que ça aille bien. C'est pas possible.
Wow.
Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Par contre, il y a moyen de vivre avec. C'est possible. Moi, je suis en train d'essayer de le faire et tout. Par contre, les somnifères, arrête. Change de médecin, machin et tout. Le dis à ta famille, tu le dis pas à ta famille, tu fais ce que tu veux. Mais Et puis ça se passe, j'y vais vraiment cash, hein, je suis capable d'avoir des grands moments de verve, surtout bourré, donc j'y vais, je pense que voilà, c'est théâtral. Et je crois que c'est un an après, j'ai reçu une lettre d'elle en fait, qui me dit qu'elle avait arrêté les médocs, qu'elle avait changé de médecin, qu'elle avait machin, que nanana, nanana. Et ça, je me rappelle, ça m'avait fait du bien en fait.
Il y avait une satisfaction d'avoir aidé quelqu'un.
Ouais, de me dire que, voilà, le pas tout seul quelque part... Il n'arrive pas là-dedans, il arrive plus dans ce que tu fais toi comme podcast et de pouvoir entendre d'autres hommes parler de toutes sortes de choses. Parce que finalement, les conséquences sur ma sexualité aujourd'hui, elles sont multiples.
Bah, j'imagine que c'est une déflagration pour toi. Parce qu'au début, tu ne sais pas où te positionner. Et comme tu dis, tu n'as pas dealé avec la frustration, le deep. Tu savais des choses à 8 ans que tu dois découvrir par toi-même.
Ouais, et puis je mentais énormément. Je racontais que j'avais déjà fait l'amour quand j'avais 11 ans parce qu'il fallait bien que je puisse l'extérioriser, tu vois.
Bien sûr.
Donc personne ne me croyait, machin et tout.
Puis même le rapport à la femme, il doit être complètement fucked up par rapport à ce que tu dois ressentir. Enfin, même si on ne parle pas d'une norme, mais il y a quand même une réalité à 11, 12, 13, 14, 15 ans. Enfin, tu vois, ce n'est pas les mêmes genres de filles qui vont... puisque tu te définis comme hétéro.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, tu ne sais pas... Enfin, voilà, tu découvres alors que toi, tu savais déjà tellement de choses sur la femme, sur...
Bah, moi, ce qui a su que je savais que ce n'était pas un rêve, et dès le départ, en fait, quand elle me l'a dit, quand elle me fait croire que c'est un rêve et tout, c'est que je savais quelle odeur avait le sexe d'une femme.
Ah ouais.
Et ça ne s'invente pas. Et je lui ai dit, quand elle me l'a dit. Je lui ai dit, après elle m'a sorti plein d'excuses, que c'était possible de sentir les culottes et les machins, mais c'est pas les culottes que j'ai senties, quoi. J'avais une odeur en fait qui était très, voilà. Elle, je sais, elle est un peu hardcore celle-là, mais voilà. Donc du coup, c'est vraiment... Et puis voilà, j'ai grandi avec ça, avec une conscience de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas eu ça en filigrane, soit quelque part avec le désir de le faire. Bon, il n'y a jamais eu pénétration. Donc ça, c'est au moins le truc qui sauve un peu le bateau, on va dire. C'est qu'au moins, c'est pas allé jusque-là. Mais voilà, ça suit. Puis après, ça passe pas par un oubli, quoi. Ça passe par, mais attends, mais là, moi, je commence à désirer d'autres personnes. Et puis, mais il y a un truc qui va pas, en fait, quoi.
Il y a eu aucun adulte qui aurait pu t'aider dans cette situation ?
À ce moment-là, je ne sais pas qui pouvait savoir.
Parce que tout ce que tu racontes, ça relève du pénal.
Totalement, ouais. Ouais, on est bien
très
d'accord.
Très grave, enfin.
Ouais, tout à fait, ouais, on est bien d'accord.
Donc les adultes qui étaient autour de toi, ne pas aider un enfant en danger, parce que là on parle de danger, de violence, d'inceste, enfin c'est horrible quoi. Il n'y a pas un adulte qui aurait pu t'aider ?
Ah ben, pour avoir fait beaucoup la teuf. Pour avoir beaucoup été dans des milieux où on se défonce la gueule et pour y être passé pendant quelques années, quand moi je voyais un enfant en soirée, je peux dire que ça me faisait pas marrer quoi.
Bah, c'est ça en fait, c'est ce que tous ces gens-là pour moi, ils sont ne rien faire, c'est décider de ne pas
on
le faire.
Est tout à fait d'accord. On ne sait que c'est pas normal de voir un enfant dans ces situations-là.
Puis même les discours que tu avais à 8 ans,
tout à fait,
en petit singe savant.
Voilà, on est tout à fait d'accord.
C'est quand même ça écoute, révèle quand même.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. J'ai rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que c'est. Chacun géré leur truc comme ils voulaient. Moi, j'analyse les gens qui font ça aussi en soirée quand j'étais plus adulte pour voir ce qui se passe. Bah, je pense que c'est plus un manque de courage, tout simplement. Faut être très clair. C'est que plutôt qu'aller mettre le nez dans quelque chose qui pourrait avoir des conséquences où il faudrait assumer, autant pas voir, quoi. Voilà. Je pense que ça régit quand même, je pense, une grande partie de nos relations sociales et des problèmes sociaux.
Complètement.
La condition des femmes dans la rue à Paris, etc. Tout ça, c'est surtout lié à une. Comment dire, à faire l'autruche. Donc,
oui, c'est les œillères que tu te mets. Mais
exactement, donc on est sur le même type là de...
Parce que t'en as des faits divers dramatiques, mais on parle tu vois, de gens qui sont isolés dans des campagnes qu'on voit pas. Hein. Là, on parle quand même d'un enfant qui est entouré, qui voit des gens, qui est en interaction sociale.
Mais moi, je pense que j'avais l'air d'aller très bien aussi.
Oui, mais...
Non, mais on s'entend, hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, je pense, qu'ils n'ont pas cette réflexion. Ils n'ont pas ce truc, tu vois. Je pense qu'il y en a plein, ils n'ont pas ça. Après, faut pas. Tu vois, moi, quand j'avais 8 ans, tous ces gens-là avaient 26 ans. Hein.
Oui, mais non, je peux pas les... enfin je n'arrive pas
c'est...
à excuser.
Moi non plus. Non, je dis, je donne. Oh alors, excuse. T'imagines bien. En plus, on va pas, je vais pas commencer à les excuser. C'est le dernier truc. C'est qu'il y a des raisons en fait. Puis de toute façon, en fait, c'est un peu le cadet de mes soucis quelque part, hein, puisque de toute façon, ça change pas grand chose là maintenant.
Oui, mais cette main tendue, t'aurais peut-être.
Ah bah totalement, bien sûr. Pff, et encore, ma mère avait tellement un pouvoir sur moi que j'aurais envoyé chier les gens, je pense. C'était mon dieu quoi. C'était. Elle s'était mis une place de...
Après, t'as des assistantes sociales. Enfin, tu vois, t'as des autorités qui auraient
Après, que les gens puissent après la dénoncer quelque chose qui se passe, bien entendu. Ça, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Oui, bah écoute, c'est pas fait en tout cas. Okay. Donc voilà, on est là. C'est que ça n'a pas été fait. Et que effectivement, en tout cas, moi, c'est pas des choses que je laisserais passer. On est bien d'accord. Mais je j'ai pas de réponse là-dessus concrète de pourquoi les gens le font pas. Hein. Pourtant, il y a du monde qui m'a vu. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Après, c'est aussi pour tout ce qui est boîte de nuit, etc. C'est une autre époque. Hein. C'est une époque où.
Oui.
C'est une époque où.
C'est une époque où il y a quand même pas d'enfants en boîte.
Ouais, ouais. Bah, écoute, si.
Enfin, il y en avait un. Oh là. Ok.
Elle devait se montrer très convaincante. Et la connaissance n'était pas compliquée pour elle, donc voilà.
Donc là, on arrive à peu près, t'es au collège.
Ouais, voilà.
Toute cette montée, tu parlais avant d'ouvrir cette parenthèse hardcore. tu parlais de ton meilleur pote et toi.
Ouais.
Où c'était
cool.
Tu vois, il y avait cette montée d'hormones et la gestion de tout ça.
Ouais, c'était cool. Ça, c'était cool. Il y a eu un côté vraiment. Voilà, on avait jamais un partenaire avec qui découvrir nos corps, etc. Donc c'était peu de pénétration. Les petits kikis qu'on
d'accord.
avait,
vous
à 12, avez... les petits okay. kikis qu'on avait à 12 ans, ils ne bandaient pas assez dur pour pouvoir pour que ça rentre, on va dire. Mais il y avait tout ce qui était les jeux autour, etc. Discussion.
Lui, t'es homosexuel ?
Non, il est heureux aujourd'hui.
D'accord, ok.
En fait, on a eu des discussions très claires sur la sexualité très vite. On s'est parlé, on a vu qu'il y avait une espèce de connaissance chacun de ce que c'était à peu près.
Mm-hmm.
Lui, je pense pas qu'il ait vécu de choses. Voilà, je pense qu'il avait juste un éveil là-dessus qui était plus. Voilà.
D'accord.
Je sais pas d'où. Parce que lui, déjà, il jouait à touche-pipi avec sa voisine. Voilà, moi, j'ai déjà. Enfin bon, voilà. Et du coup, on commence à jouer ensemble. Puis ce qui est cool, quand t'as deux mecs, personne pose de questions. Quand t'es dans la chambre, ça, t'es tranquille. Tu passes les nuits chez ton pote et tout. Je sais pas combien de temps ça a duré. Pas super longtemps, je pense pas.
Il y a pas de sentiment à ce moment-là.
Non,
c'est vraiment
pas du tout.
Ludique.
Ah ouais, c'est grave. Ouais, c'est ça. C'est du touche pipi plus plus.
C'est le TP de SVT.
Ouais, mais c'est clair. C'était cool. Tu vois, vraiment, il y avait un truc. Je me rappelle, lui, il jouissait déjà. Quoi, il éjaculait déjà, pas moi. Alors j'essayais. Quoi, tu vois. Enfin, bon, c'était assez.
Et c'est une relation qui a duré longtemps.
Ouais. Après, moi, je suis parti assez. Je suis parti à Paris. J'avais 13 ans, tu vois.
Donc chez ton père là.
Non, chez ma mère.
Ah pardon.
Ouais, mon père est en Lorraine. Ma mère est à Paris. On reste en contact toute mon adolescence jusqu'au début de l'adulte quoi. Non, parce que adulte. Fin de l'adolescence plutôt, parce que 18 ans, on va dire. Et là, après, moi, c'est le début où je commence à faire la teuf, à me droguer, etc. Donc là, j'ai coupé pas court avec les relations, mais j'étais plus du tout dans le même monde, plus du tout dans le même truc. Donc il y a eu
plein
de... On y reviendra peut-être. Et du coup, il y a eu lui, il y a eu d'autres garçons aussi avec qui je m'amusais.
Mais ça n'a pas défini ta sexualité ?
Non.
Et eux, pareil, c'était une attirance qui se faisait comment ? Qui se faisait un peu comme un deal de potes.
Ouais, on essayait quoi. Par contre, c'est souvent moi qui proposais quand même.
Ok.
Mais ouais, il y avait un espèce de truc où. Je me rappelle aussi, tiens, ça c'est un bon souvenir, c'était top. Il y avait la sœur d'un pote que j'adorais, que j'avais trouvé trop belle et tout. Et on avait fait des jeux comme ça, on était quand même tous tout nus, tu vois, on devait avoir 13 ans. On avait fait un faux film de cul où on jouait un film de cul où genre elle arrive, elle renverse mes bouquins, donc je l'aide et oh zut, machin. Et je me rappelle, on était quand même nus tous les deux. Moi j'avais rêvé qu'une chose, c'était de faire l'amour avec elle. Et il y avait juste un drap entre nous deux, tu vois. Mais genre, son frère était là. C'était une famille de tarés, je les adorais. Je passais mes week-ends chez eux, ils étaient tous fous. Plus. Ils habitaient dans un manoir.
Ok.
C'est le vrai manoir avec les draps blancs sur les meubles en haut, là, tu vois.
Ok, donc c'est une autre galaxie, en fait. Ok.
On faisait vraiment les cons, quoi. Il y avait un truc où ils étaient. Pareil, c'était un peu starbé dans cette famille. Et voilà, il y a eu ce moment-là aussi.
Il n'y avait pas de sentiment de transgresser un truc, etc.
Bah, lui, il n'était pas actif avec sa sœur du tout. Hein. C'était vraiment. Il n'était pas. Il n'y avait rien. Bien sûr, hein, là, on en reste sur un truc. Bah, transgressif, non, parce qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Il n'y avait rien okay. de. Voilà.
Ouais,
y
mais
avait
vous n'aviez pas l'impression de faire une bêtise ou d'être un peu.
Ah, un peu. Ouais. De toute façon, à cet âge-là, dès que tu fais un truc un peu. C'est ce qui est cool aussi à cet âge-là, c'est que ça.
Ouais,
tu as toujours un peu l'impression de faire une bêtise quelque part. Mm-hmm. Mais, Après, le thème de la transgression, il est important dans mon histoire. Donc, de toute façon, il est aussi en filigrane sur beaucoup de choses.
C'est pour ça que je te pose ces questions, parce qu'effectivement, avec les non-limites que tu as eues et les jalons qui existent autour de toi, c'est justement tout être a besoin de transgresser. Mm-hmm. Donc, jusqu'où toi, tu as pu aller ?
Bah oui. Voilà, on va y venir. Il y a quelques années après, on a passé le plus hardcore. Vraiment, là, sur le côté hardcore, c'est bon. C'est en fait, les limites, je me les suis mis moi.
Mais
j'ai
c'est
compris
ça.
À 13 ans qu'il y a un truc qui n'allait pas.
Mais
qu'à ce niveau-là, elles ont été posées. Et à partir de cet âge-là, j'ai moi décidé que ça allait être fini, ça. C'est-à-dire que je serais le dernier maillon. Donc déjà, à cet âge-là, je pense avoir une psy, je réfléchis à tout ça,
d'accord.
Comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Je ne l'ai pas fait avant mes 27 ans, hein, tu vois, donc c'est quand même 15 ans plus tard. Mais voilà, il y a eu vraiment beaucoup de questionnements. Puis moi, j'ai dû remettre beaucoup d'autres choses en question aussi, puisqu'à ce moment-là, elle avait tellement détruit la relation que j'avais avec ma belle-mère, qui était géniale. Putain, ma mère, elle a fait ça. C'était chiant. J'aurais pu avoir une figure maternelle saine, qui était ma belle-mère. Elle l'a tellement démonté que j'apprenais pour une conne. Et du coup.
T'as pas pu lier ?
J'ai pas pu lier. En fait, on avait grave lié, mais ça s'est délié très vite. C'est au moment où je suis parti habiter avec ma mère. En fait, elle a tout récupéré, quoi. Elle a fait en sorte de pouvoir que je revienne. Et arrive l'âge de 14 ans. Moi, il y avait une espèce d'urgence à me dépuceler, en fait. Parce qu'il fallait que je puisse prendre la main là-dessus.
Bah, t'avais tellement en plus la théorie.
Ouais, puis il fallait que ce soit mon truc.
Ouais, que c'est que tu le possèdes.
Voilà, que c'est moi qui le fais. Là, je dis avec le recul, hein, sur le moment, je pense que je le voyais pas comme ça, mais il y avait un truc. Puis en plus, je mentais là-dessus. Je disais que j'avais déjà fait l'amour, alors que c'est pas vrai. Donc il y avait un truc, beaucoup de pression derrière tout ça. Et donc au collège, il y avait une nana qui a couché un peu avec tout le monde et tout. Et comme moi, je voulais pas coucher qu'une fois, je l'ai invitée une semaine en vacances.
Ok, ok. Bonne strat.
Tu vois, c'est la stratégie. Ça, je la coince une semaine et puis voilà. Et je m'excuse auprès d'elle vraiment. J'ai vraiment fait le connard après derrière. Mais bon, tout est lié aussi un peu à tout ça. C'est-à-dire que. Alors du coup, je l'invite chez mon père en vacances une semaine. Je faisais jamais de sieste, je faisais une sieste par jour, là, bizarrement. Et on a fait l'amour toute la semaine, non-stop, non-stop, non-stop. Dont une fois avec mon meilleur pote aussi.
Ok, déjà donc, à 14 ans.
Ouais, 14 ans. Donc,
comment ton père, il voit ça ?
Il savait à peu près,
ouais.
Il se doutait, mais on n'a pas trop parlé, quoi. D'accord. Ouais, il m'a fait des petites allusions, genre...
Mais il n'est pas venu te voir avec une discussion ?
Non, non, il n'y a pas eu de discussion, finalement, en fait, avec... Non, j'ai jamais eu de discussion avec les parents. Bah si, avec ma mère, j'en avais, en fait, autour de ça. Mais voilà, voilà où ça a terminé, quoi, tu vois. Donc, c'est plus. Et du côté de mon père, non, il n'y en a pas eu. Non, du tout. Non, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai, ça, je m'étais jamais posé la question. Bon, ça m'a
non,
pas.
Mais dire sur des préservatifs, sur.
Non, mais je le savais. Je sais. Ouais, ouais, non, mais quoi, ça, il pouvait pas le savoir que je le savais, mais non, je crois pas, non. Non, non.
Ok. Donc, alors, tu fais l'amour avec cette jeune fille.
Ouais.
Et alors ?
Bah, c'était nul, forcément. Mais vraiment, je pense que je sais même pas si je l'ai fait jouir une seule fois dans la semaine.
Elle avait ton âge ?
Ouais, on avait le même âge. Très sexuelle comme fille, donc on y allait à fond. Trois fois par jour, on n'arrêtait pas. C'était comme un ouf, voilà. Puis du coup, donc
il y a une marge de progression sur cette semaine-là quand même. T'as réussi au fur et à mesure, ça s'est quand même amélioré puisque.
Je crois pas.
Ah non ?
Ah si, oui et non, mais franchement, non mais attends, non mais s'il te plaît, quoi. Okay. C'est vraiment. Quand je savais qu'il se passait quelque chose vers le clitoris, j'avais déjà vu des trucs.
C'est déjà pas mal.
Ouais, non, mais oui, non, mais bon, dis donc, voilà, mais bon.
Ouais, c'était
je
pas.
Je peux pas dire des trucs glauques, mais.
Ouais.
Disons que je savais déjà à quoi ça ressemblait, effectivement, on en a, tu vois. Donc, mais du coup. Mais là, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, ce qui m'est arrivé dans mon enfance ne se mélange pas du tout à ma sexualité.
D'accord.
Il n'y a pas de montée d'idées, il n'y a pas de flash.
Oui, c'est ce que j'allais te poser parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec des femmes qui ont subi justement des viols, soit dans leur enfance, soit plus tard des agressions sexuelles très violentes dans leur quand elles sont femmes. C'est un vrai truc qui se passe quand elles ont des rapports intimes, c'est des flashs, c'est des moments, et c'est très dur de reconstruire une sexualité épanouie quand il y a eu ces violences-là.
Tout à fait. Bah, du coup, moi, c'est venu au compte-gouttes. Au fur et à mesure des années, donc ça on y reviendra aussi parce qu'on va. Donc à ce moment-là, c'est très sectorisé. Il y a vraiment, j'y pense pas.
Là, voilà, tu penses à cette jeune fille.
Je pense à cette jeune fille. Je suis pas amoureux du tout. Il y a rien et rien entre nous à part juste le fait que.
Et ça t'arrive à parce qu'à 14 ans, on a encore, on a envie de croire à l'amour et tout ça. Ça t'arrive à faire vraiment la part des choses.
Mais c'est pas une part des choses que je fais. Il y avait un besoin de le faire. C'était le moment. J'avais déjà joué avec elle. Tu sais, tous les potes sont dans la pièce. Tout le monde sait exactement ce qui se passe dans la chambre. Elle est là. Je me rappelle l'avoir doigtée. Je trouvais ça génial. Et là, en fait, là, bah, y a plein de rapports. Il y a l'odeur que je reconnais aussi, qui est une odeur que je connaissais déjà, dont je suis un peu fétiche, tu vois. Donc, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, ça, c'est des choses qui vont revenir aussi au fur et à mesure. Mais tout ça, ça se met pas en tête pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je kiffe, je trouve ça génial. Je touche une meuf,
ça y est, t'as 14 ans, tu l'as fait.
Ah, et puis, ouais, mais avant, là, j'avais même pas encore fait. Elle était sur le lit, l'après-midi. Je me rappelle, bah, des doigts et tout. C'était incroyable, quoi. Moi, je trouvais ça génial. Puis, je trouve ça, moi, les femmes, je suis amoureux du corps des femmes encore aujourd'hui. Donc vraiment c'est voilà, ça y est, ça commence, quoi.
Et une fois que ça y est, c'est fait, parce que donc t'as pour toi, donc le rap, enfin être dépucelé, c'est avoir cette pénétration.
Oui, voilà, c'est là, on est sur un dépucelage phallocentré, pénétration.
Voilà. Mais c'est assumé, ça... c'est ça qui est
oui bien. Bah oui, il est coup bah j'avais déjà eu ces choses là avec mon meilleur pote et tout. Oui. Donc
mais pas avec une fille,
quoi.
T'avais un peu flirté ou pas?
Je sais plus comment ça allait. Mais elle me plaisait même pas physiquement. Il y avait vraiment un truc.
C'était l'urgence.
C'était la
quoi.
Meuf qui y allait avec tout le monde. Et voilà, moi j'y vais aussi, quoi. Sauf que moi, je me suis dit, bon, bah, une fois, quoi. Franchement, ça fait chier de
construire.
Bim, allez, une semaine en vacances. Sauf que quand je rentre, bah, forcément, je le dis à tout le monde, je fais mon malin parce qu'en fait, enfin, je mens plus, quoi.
Pour de vrai, ouais.
Et sauf que là, bah, la pauvre, ça la blesse. C'est pas cool comment je l'ai fait. Je l'ai quitté en plus salement, première fois. Enfin, moi, j'ai fait.
Pas beau.
Donc la pauvre, voilà, Flora, si tu m'entends, je suis profondément désolé. Je ne sais pas ce que je faisais à cette époque-là. Et de toute façon, c'est une année où j'ai fait, à l'école, j'ai eu une crise d'adolescence. C'était cette année-là, j'ai fait qu'un an dans ce collège-là, c'était parfait. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire sur une seule année où j'ai plus jamais revu personne.
Okay.
Ça ne m'a pas suivi, c'était top, quoi. Mais vraiment la honte tout le temps, je me foutais des
honte. Et d'ailleurs, scolairement, ça allait comment les cours?
Oh, alors moi, c'était compliqué l'école. Ouais, bah. C'était compliqué. Surtout que moi, j'arrivais au collège en Lorraine, habillé comme si je sortais d'une rave années 90, si tu veux.
Ouais.
Avec des moumoutes bleues électriques, des machins. Donc, je peux te dire que j'y passais. C'était les moqueries, les machins, nanana. J'étais très insolent avec les profs. Je me faisais chier
forcément,
en cours.
Ouais.
En plus, je savais quoi répondre. Donc, voilà.
Compliqué.
Là, j'étais, tu vois, 11 ans, treillis, rasé, Marcel, vas-y, quoi, tu vois, genre en mode, c'est qui le patron? Donc, voilà, forcément, ça passe pas auprès de certains profs. Donc, moi, j'ai jamais aimé l'école, ça m'a toujours saoulé. J'adore apprendre, mais pas à l'école.
Pas à l'école. Donc, là, t'arrives, tu changes de collège, t'as 15 ans.
J'ai 15 ans, et vers cet âge-là, je rencontre... Il s'est pas passé grand-chose de mes 15 à genre 20 ans, il y a presque rien eu.
Tu as eu quelques copines ?
Sauf ouais, voilà, un amour que j'ai eu qui était très rapide, mais j'étais fou amoureux. Katiushka. Alors là, elle faut qu'elle m'entende ici parce que elle a essayé de me retrouver, j'ai perdu mon portable, on s'était retrouvé dans la rue, elle avait absolument un truc à me dire. Moi je partais faire la teuf, je sais pas où, j'ai perdu mon portable. Et donc Katiushka, c'est Erwan, si tu entends, tu appelles on the verge et
magique.
Tu demandes mon numéro.
Ce serait magique.
Parce qu'elle m'avait, quoi, tu vas voir l'histoire, quoi. Donc je suis avec cette nana, elle a 18 ans, moi j'ai 15 ans, donc gros écart d'âge à cet âge-là quand même.
Bien sûr.
Moi je suis quand même... Et elle était vierge et on s'entend super bien, on a duré peut-être un mois ou deux ensemble, quoi. Et j'étais fou amoureux, mais en fait c'était une fille qui était très 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 complexée. Et en fait, je pouvais pas lui parler de ce que j'aimais chez elle. Et en fait, ça a vraiment cassé le game, j'ai envie de dire, tellement. Au point où ça devenait tellement prenant son manque de confiance que ça a cassé le couple.
Votre relation, ouais.
Mais quand même, on a fait l'amour ensemble une fois. Alors, pas rien raté, pas possible. Moi, je flippais complètement. C'était la deuxième fois que je touchais une nana.
Elle, en plus, très mal à l'aise.
Moi j'étais très doux avec elle, vraiment, elle savait moi que j'avais déjà eu une relation une fois, quoi, que c'est arrivé, et que voilà, je savais moi qu'elle était vierge, donc j'avais tout mis en place pour que ça soit le plus cool pour elle. Et voilà, en même temps, quand ça dure une minute douche comprise, forcément elle a pas pu
c'est difficile de se projeter là.
non mais ça a duré deux secondes, j'étais excité comme pas possible, en fait on s'est quitté juste après, donc on n'a pas pu recommencer. Mais quand même, ça a duré très peu de temps. Assez, je pense, pour qu'elle perde sa virginité. Et après, ce qui se passe, s'il y a 18 ans, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose. Alors, si j'oublie cette histoire-là. Alors, celle-là, oh, c'est moins glauque, mais on y va quand même.
Avant tes 18 ans, toi, c'est quoi ton rapport à ce moment-là? Alors, dans ces années-là, c'est quand même... le porno est quand même accessible. C'est quoi ton rapport à la masturbation, au porno?
Alors, masturbation, je me souviens pas quand j'ai commencé.
Ok.
Pour moi, j'ai toujours été actif à ce niveau-là. Et je me masturbe tout le temps, je pourrais tout le temps. Tout le temps, je pense tous les jours.
Ok, voilà. Tous les jours.
Moi je dis masturbation, tu montes un micro, donc c'est-à-dire un truc phallique.
Écoute, désolé, les micros n'ont pas non, d'autre forme.
Ouais, ouais.
Oui, alors là, t'imagines. Non. Ok, donc tous les jours.
Ouais, une fois par jour. Alors après, c'est devenu un truc avant de dormir sur pratiquement toute ma vie.
Ok.
Voilà, une fois par tous les soirs avant de dormir, ça me détend, ça me fait du bien, machin et tout. Ce que j'ai arrêté de faire là dernièrement, mais bon, pareil, on pourra en reparler. Mm-hmm. Mais voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, oui, je me masturbais très régulièrement.
Et le porno?
Non, pas trop. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que j'avais pas internet dans ma chambre quelque part. Tu vois, aujourd'hui, mm-hmm. T'as le laptop là sur ton lit et voilà, c'est parti. J'ai pas envie de me branler devant mon. C'est quoi, comme dans les films américains où ils font tout ça sur leur bureau. Okay. Il y en a peut-être qui font ça, mais.
Dans le lit.
Ouais, je sais pas, il y a un truc, voilà. Si, j'ai un rapport à la masturbation, pénétration anale, en fait. Je fais beaucoup de choses avec mes fesses, on va dire. J'adorais ça. C'était ma petite passion à moi. C'est-à-dire que je chopais les objets les plus cool possibles.
Les plus phalliques possibles.
Ouais, phallique possible, ouais, voilà. Et en gros, j'avais une activité assez régulière sur.
Et ça tout seul?
Tout seul. Voilà.
Pas de, t'as jamais parce que j'ai eu des invités qui avec le temps vers la trentaine etc. Toi ouais. Ça a été très rapide?
Ouais. Okay. Ouais tout seul mais dès l'âge de peut-être 13 ans quoi, 13-14 ans un truc comme ça.
Ok.
Alors là en plus aucun rapport avec quoi de glauque ou quoi. C'est juste je pense que je savais comment c'était possible.
Mm-hmm.
J'avais une bonne idée de ce que c'était l'homosexualité et de rapport sexuel entre deux hommes donc mm-hmm. Voilà je me suis dit puisque avec quand j'avais pas réussi à le faire avec mon meilleur ami voilà je vais le faire mm-hmm. Moi tout seul quoi et j'adorais ça.
Okay.
C'est important parce que je pense que après la transformation par rapport à mon rapport avec l'anal
mm-hmm.
Et maintenant c'est plus le cas et c'est très bizarre, il y a eu un shift à un moment et je sais pas d'où il vient.
Okay.
Il est très étonnant, c'est-à-dire que il y a même un truc, une espèce de dégoût à un moment.
Mm-hmm.
Et je me suis même posé la question si la société dans laquelle on est n'avait pas réussi à un moment à me mettre dans la tête qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre du pas bien.
Du
quoi.
Pas bien.
Ouais.
Okay.
Ouais, je me pose la question. Ouais. Ouais, mais bon, si on pourra rediscuter, c'est plus un sujet général. Et là, on arrive sur mes 17, 18, je commence à bosser. Moi, j'ai fait des études d'hôtellerie, j'étais cuistot. Bon, il y a deux trois amourettes par-ci par-là, mais je pense qu'il s'est rien passé quoi. J'ai des gens dont je tombais amoureux. Mm-hmm. Je tombais amoureux toutes les 5 minutes. Je regardais la télé, la voix d'une nana, j'entendais, je regardais, je fais oh, j'étais en train de mourir d'amour et je m'imaginais le nom de nos enfants.
D'accord.
Et comment voilà je suis
un cœur d'artichaut,
un vrai cœur d'artichaut, un vrai cœur d'artichaut quoi. Donc j'ai vécu plein d'amour, alors c'est génial. Non, ça tient pas dans cette pièce.
Ah oui, la fameuse
pièce.
Trop d'air, ouais.
Bon, et du coup, et là arrive le moment où je commence à bosser. Je vois souvent une pote à moi qui a une amie. Et cette amie, Pamela, elle commence à me chauffer un peu. Elle me plaît pas du tout non plus. Mais pareil, il y a un truc... Je me dis, je me laisse faire. Quelqu'un veut de moi, allez, j'y vais, quoi. De toute façon, qu'est-ce que je m'en fous voilà,
son c'est désir des... te...
Ouais, puis je me dis, c'est cool. Puis en fait, elle s'occupait vraiment de moi. C'est-à-dire que moi, je bossais en cuisine, j'étais en coupure, je venais le... Je bossais, je sais pas combien d'heures par semaine. J'étais malléable, pas possible. J'avais 18 ans, j'en voulais. Les mecs, ils sont bien servis de ma...
De ta fraîcheur.
De ma fraîcheur. Et je vois cette nana, j'allais chez elle l'après-midi et genre, mais elle me massait, elle me mettait du massive attaque en massant avec des huiles. Et après, on faisait l'amour et quand on baisait, et voilà quoi. Sauf qu'on ne se protège pas.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça dure très peu de temps, hein, ça, ce moment-là. Et un soir, je rentre du boulot chez moi, tranquille.
Tu vivais seule?
Non, chez ma mère, là. Je reçois un coup de fil Et elle m'envoie un SMS, je sais plus quoi, faut que tu viennes me voir, machin et tout. Je fais, écoute, là, je viens de rentrer, il est minuit et demi, je vais me coucher, quoi. Elle fait, non, faut que tu viennes me voir. Je fais, écoute, là, non, je suis désolé, quoi. Elle fait, écoute, je suis enceinte. Je fais, ok, j'arrive, je prends un tacos, je vais la voir. Je me pose à côté, moi j'étais ni amoureux, ni machin, ni rien. Donc je me pose à côté d'elle, elle me parle, elle me dit qu'elle est enceinte. Je lui fais, écoute, voilà, écoute. Je fais, écoute, moi, on n'est pas amoureux. J'aurais jamais dû le dire, ça.
Elle était amoureuse.
Alors, ouais. Je suis pas amoureux. On n'est pas en couple à cet âge-là. Moi, je veux pas d'enfant. Par contre, maintenant que c'est là, que ce soit pour un avortement ou un accouchement, je serai là. C'est pas à moi. Je peux pas choisir. Donc, voilà. Mais sache que je ne veux pas d'enfant.
OK.
Voilà. J'assumerai s'il le faut. Il n'y aura rien qui sera machin. Mais j'en veux pas. Donc, je lui dis ça. Et elle me dit, bah, je vais pas avorter. Puisque elle avait déjà eu un avortement un peu hardcore, elle m'a raconté quoi c'est son histoire, je ne sais pas si c'est vrai, et qu'elle ne voulait pas revivre ça, etc. Moi j'avais 18 ans, elle en avait 26.
Ah oui, parce que j'allais te demander.
Ouais, elle en avait 26, elle. Et, ah oui, très important dans l'histoire, cette nana m'a donné un orgasme, on ne parle pas de jouir, hein. Elle m'a donné un orgasme.
Okay.
C'est-à-dire qu'un jour, elle me suce, j'étais sur le lit, et il se passe un truc en moi, je jouis comme d'habitude, on va dire, sauf que là, non, je ne jouis pas comme d'habitude. Ah, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un petit mouchoir, un peu humide, où il y a 3 gouttes d'eau dedans, qu'on a tellement retourné comme ça, que toutes les gouttes d'eau sont parties, et que hop, j'ai terminé la place, je te jure, j'ai vu la pièce bouger en rouvrant les yeux, comme si j'avais été secoué. Quoi. Un truc, mais...
Une fellation.
Un truc monstrueux, j'étais dans un lâcher-prise de ouf, mais monstrueux, quoi. Monstrueux, okay. un orgasme comme féminin, quoi, j'ai envie de dire.
T'étais pas
tellement...
amoureux.
Ouais, et j'étais pas amoureux, imagine si j'étais amoureux, quoi.
Elle aurait pu te rendre amoureux.
Ça, elle me donne ça. Donc ça, c'est important pour la suite, puisqu'on en reparlera après de l'orgasme. Mais voilà, orgasme de ouf, cette meuf me donne ça, parce qu'en fait, c'est vrai que je me laissais aller, quoi. Mmh. La meuf, j'arrivais, elle me mettait des petites bougies en plein après-midi pendant ma coupure.
Le pacha.
Ah ouais, le pacha, quoi. Enfin, je pense qu'elle était folle amoureuse de moi. Donc, le mec qui arrive, qui lui dit, t'inquiète, j'assumerai le gosse, mais par contre, je suis pas amoureux de toi, donc en gros, c'est très clair que t'auras plus rien.
Elle décide de le garder.
Décide de le garder. Sauf que ça s'arrête pas. Donc, là, j'appelle mon père, j'en parle à ma mère. Ma mère, qui a failli faire partie des grands-mères les plus jeunes de France, 18-18, ça fait 36, donc je crois qu'il y a 34 la plus jeune, ouais. Tiens. Et donc, du coup, j'annonce à ma mère est ravie, tarée comme elle est, hein, génial, machin et tout.
Ok,
c'est là, donc voilà. Donc, okay. Par contre. Ma mère, sur plein de choses, elle a assuré. Ça, c'est vrai. Hein. Elle a des bons côtés, forcément. Hein. C'est... Malgré ce qu'elle a fait, qui, comme on peut dire, relève de l'horreur pour un enfant, elle avait des très, très bons côtés. C'est bien le problème, d'ailleurs. C'est tout le problème aussi de sa personnalité. C'est qu'elle était.
De savoir dire à ses parents que c'est terminé.
De comment ?
C'est tout le problème de savoir dire à ses parents que c'est terminé. Quand la relation est toxique, ou en tout cas fait plus de mal que de bien, évidemment, c'est toujours compliqué.
Tout à fait. Et donc, du coup. Bah, ce qu'elle sait faire, elle, par contre, c'est assurer sur des moments où ça craint, quoi. Donc là, bah, c'est parti. En plus, cette nana, 6 mois de loyer de retard, ses parents qui la suivent pas sur ce projet-là, du coup, qui lui font « Attends, mais toi, si t'es enceinte, on te renie, quoi. »
À 26 ans ?
Ouais. Et donc 6 mois de retard et au chômage et plus d'emploi depuis des mois à des mois. Donc du coup,
marginal,
voilà, tu vois,
c'est
très dur de reprendre.
Merde,
voilà, et dans la merde, complètement dans la merde. Donc c'est à moi de gérer. Donc moi je demande une augmentation, j'arrête de fumer. À l'époque j'avais pas connu la teuf et tout ça encore. Hein. Donc voilà.
Donc en fait vous préparez.
Bah, on prépare ça, c'est parti quoi. Je vais être papa, c'est parti quoi. Qu'est-ce que tu veux y faire ?
Ok.
Donc on l'appelle, on lui dit écoute bah voilà vu que t'as personne qui te soutient, nous on va te soutenir. La famille est prête. Mon père le seul truc qu'il a dit, mon père est vraiment cool, hein, il m'a fait Erwan putain les capotes. Voilà. Seule chose, il faut moi aller, c'est parti maintenant. Allez, voilà. Donc si j'ai eu la discussion, mais trop tard.
Ouais. Non. C'est ça, ouais. C'est là.
Mais en fait, je pense que moi, j'en ai pas mis de capote, c'est que je me laissais tellement faire, tellement aller à ce moment-là, qu'il y avait un côté voilà, où elle a pas mis de capote au moment où on a baisé. Et voilà. Bon, et du coup, bah, c'est parti. Sauf que au bout de, où elle aurait dû être à un mois de grossesse, donc une semaine et demie, 2 semaines après, parce qu'elle a su très vite en fait. Elle devait avoir ses règles presque directement derrière, je sais plus quoi, donc du coup, elle a su très vite. Elle commence à m'insulter tous les jours et à me dire « Tu verras jamais ton gamin, tu cracheras au bassinet, espèce d'enculé, nanana, t'as vu ce que tu m'as fait ?» Parce qu'en fait, moi, j'étais super présent, quoi. Donc là, ça part en cacahuète.
C'est quoi ? C'est parce que tu lui as dit que tu l'aimais pas ?
Certainement. J'ai jamais eu d'explication. On arrive... Donc là, ce serait peut-être bien qu'elle avorte pour moi dans ma tête, parce que si ça part comme ça, moi, il n'y a pas moyen que j'ai un gamin dans ces conditions-là. Mais bon, s'il est là... Donc là, je fais tout pendant longtemps pour calmer le jeu, parce que sinon, moi, je verrai jamais mon gosse, quoi, tu vois. Et là, ma mère me dit un truc et elle n'avait pas eu tort à ce moment-là. Elle me fait, écoute, là, on arrive au moment où elle peut plus avorter en France, mais elle peut encore avorter en Belgique. Donc là, en fait, elle continue parce qu'elle sait que tu vas être là. Tu vas être présent. C'est pour ça qu'elle le fait. Sinon, elle est toute seule. Elle sait bien qu'elle ne va pas garder le gamin. Donc, il faut, là, tu as un choix à faire maintenant. C'est, donc là, 18 ans, le choix, c'est soit j'assume mon gosse et je me tape la mère qui va avec et je me fais traiter d'enculé pendant toute son enfance avec ça, soit je décide de ne pas assumer mon gosse. Et puis, si un jour il vient, je lui expliquerai tout.
Ok.
Et là, je fais... je te jure, la décision à prendre là, elle est hardcore. Mon père, moi, il aurait pu... Ma mère a fait un enfant toute seule au départ. Mon père est resté parce que ma mère a dit, écoute, moi, je fais un enfant et toi, tu restes
c'est
ou pas.
C'est quand même assez extraordinaire que ce schéma se répète à ce moment-là.
Ouais, bah, pas pour rien. Hein.
Ouais, même âge, même machin.
Exactement.
Wow.
Et du coup, mon père a tout fait voulu assumer. Donc, moi, c'était impossible de pas assumer un gosse. Ouais. D'avoir un père, c'était génial quoi, pour moi, surtout vu ma mère, heureusement que j'ai eu mon père. Et du coup, je décide quand même, en fait, un jour, je décroche et au lieu de dire salut, ça va, machin, je fais écoute, toi, ton gosse, tu peux te faire enculer. Et j'ai raccroché.
Okay. Voilà.
Donc là, je m'effondre en larmes, là, c'est l'horreur. Donc là, on devait être vers les 3 mois et demi de grossesse, normalement. Mm-hmm. À 6 mois de grossesse, je reçois un coup de fil, c'est un garçon, ça raccroche. Voilà. Et en fait, j'ai fait plus tard le rapprochement, j'ai commencé à me défoncer la gueule le mois de la naissance de cet enfant.
Ok.
Je me démonte la gueule comme un cochon. J'ai passé un an comme un bon gros junkie. Je vendais, je dis ça là, je m'en fous, c'est bien prescription, mais je vendais des centaines de grammes de speed.
Tu bosses toujours à ce moment-là.
À ce moment-là, j'ai commencé à tout perdre. Là ça a été le moment où j'ai commencé à tout perdre. Ça durait une petite période d'un an, où j'ai tout perdu, mais après j'ai vite repris les choses. Mais voilà, là j'ai commencé à faire n'importe quoi.
Donc tu tombes dans la drogue.
Ouais, en gros, je trouve une meuf à ce moment-là, on pourra en reparler vite fait, Jenny, qui était vraiment cool, mais quoi cool, on s'est mis à se droguer ensemble, mais c'est pas elle qui m'a mis dedans. Et en gros, donc ça tombe sur les mêmes dates, là où je commence à me la mettre sévère. Donc je pense que j'y pensais pas, mais il y a une partie de moi qui devait bien y penser. Et j'ai des anciens potes qui connaissaient en fait la copine par qui je l'avais rencontrée, qui en plus était... Et savait tout ça, puisque c'est sa pote. Ils se sont dit, putain, mais Erwan, il va pas bien, c'est à cause de ça. Eux, ils comprennent que c'est à cause de ça. Parce qu'ils disent ça direct. Ils me voyaient plus du tout. Hein, je les voyais plus depuis longtemps. Et là, je reçois un coup de fil. Ils font, Erwan, t'as pas d'enfant. Elle t'a menti. Parce que moi, je la voyais plus. Elle s'était barrée. Elle fait, t'as pas d'enfant.
Donc, elle t'a menti.
Et elle avait avorté une semaine après. Et c'est là où elle a commencé à m'insulter, en fait.
Et donc, quand elle t'appelle, c'est pas vrai ?
Rien n'est vrai. Et en fait, pendant un petit moment où je la voyais, je pouvais pas le savoir parce qu'elle était, c'était quelqu'un qui était en surpoids. Donc, impossible de voir les débuts de grossesse.
Non, puis même, t'as des grossesses qui...
Ouais, puis elle, même à tu vois, même à 5 mois, je pense qu'elle j'aurais pu continuer à me dire, là, je vois rien, machin et tout, quoi, tu vois.
Waouh.
Ouais, donc, voilà. Et donc
une autre femme manipulatrice.
Tout à fait. Et surtout, c'est elle qui m'a donné mon premier orgasme. Donc là, moi, je pense qu'inconsciemment, il y a une assimilation qui se crée aussi par rapport à ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus jamais eu d'orgasme.
D'accord.
Voilà. De ma vie, là, j'ai des jouissances.
Ok.
Je jouis, c'est sympa. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, là...
Comment tu fais le parallèle de ça ?
Moi, je l'ai fait longtemps après, en fait. À un moment, Bah, c'est encore choquant, quoi. C'est encore un truc avec une femme, quoi. Mon histoire avec les femmes est quand même très particulière depuis le début. Et du coup, là, c'est encore... Quoi, en tout cas, je dis pas que c'est un parallèle, mais la seule femme avec qui j'ai eu un orgasme, elle m'a fait ça, quoi. Donc, juste derrière, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas...
Ok.
Donc, c'est un petit parallèle que je fais qui peut-être, ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant... Il le lâchait prise et pas là, quoi.
Donc, tu vis cette espèce de tourbillon horrible
pendant un an. J'apprends déjà que je suis pas papa et là, j'ai un poids que je me croyais qui était pas là, mais qui en fait était là. Tu sais, le poids invisible, mais qui d'un coup...
Ok.
Et voilà. Donc là, se passe ce truc-là qui est vraiment, pour moi, vraiment...
Tu l'appelles, cette fille, pour lui dire ?
Non, c'est elle qui m'appelle parce qu'elle a su que j'allais savoir et qu'elle a essayé de se rattraper le truc.
Ouais, bah évidemment,
là, j'ai raccroché après, j'ai fait... Voilà, surtout que aujourd'hui je suis plutôt un gentil garçon, mais voilà, de par mon enfance et tout, il y a énormément de violence en moi, beaucoup.
Qu'est-ce qu'on prend ?
Pas du tout physique. J'ai jamais été violent physiquement, mais alors à l'intérieur de moi, il y a de la haine, quoi, il y a de la rage, il y a beaucoup de choses. Donc moi, quand t'es mort pour moi, t'es mort pour moi. C'est-à-dire, c'est je peux t'avoir en face de moi.
Et j'imagine que tu fais la même chose quand t'aimes. Quand t'aimes quelqu'un, c'est très fort.
Ouais, c'est ça. Et du coup, donc se passe ce truc là. Donc déjà merci ces potes là. Mais alors c'est pareil, s'ils m'entendent, merci, mais ils savent même pas à quel point.
Ouais, ils t'ont libéré d'un truc.
Voilà. Bon, ça m'empêche pas de continuer à me droguer. Donc là, je perds un peu tout ma vie. Bon, et donc j'avais rencontré cette meuf Jenny là, Jennifer, avec qui on avait commencé à se droguer.
Tu drogues comment ?
Alors moi j'ai commencé, alors déjà j'ai attendu avant de commencer à me droguer, puisqu'en fait je pouvais commencer beaucoup plus jeune. J'avais vu ce que ça faisait chez les gens qui étaient autour de moi, puisque ça se faisait dans un côté de ma famille. Mais du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit voilà, commence pas à te droguer tant que t'es pas parti de chez toi, puisque en fait tout ce que tes parents t'apportent comme éducation, tu pourras pas le refaire. Par contre tout ce que tu t'apportes à toi, tu pourras toujours refaire le chemin. Donc du coup, si tu dois détruire des choses à cause de la drogue parce que tu te la mets trop, au cas où que ça parte en couille, fais-le quand tu t'es indépendant, quoi. Donc j'ai attendu d'être indépendant. Et un jour,
c'est intéressant d'intellectualiser sa première prise de drogue.
Bah ouais,
tu sais que tu vas te droguer.
Ah, je savais que j'allais me défoncer la gueule. Je savais que j'allais me la mettre.
Mais t'attends le moment.
Ouais.
Ok.
Ouais, il y a de ça. C'est vraiment ça en plus. Hein, et c'est ce qui m'a sauvé. Hein, je pense aussi de tout ça. Hein, c'est que tout était très. Je savais ce que je faisais. J'ai jamais cru que j'avais le contrôle. Je me suis jamais menti par rapport à ça. Voilà. Et en fait, un jour, j'avais juste pris Zexta une fois avec des potes. Et je vais faire une after dans les chambres de chez Madame Arthur en haut. C'était génial. Enfin, moi, je me retrouve avec tous les employés de Madame Arthur. Et un mec me file un extra, il me fait bah, tu le testeras. Et là, je vais au Gibus, dans les soirs hardcore du Gibus. Et je me dis si je bouffe cet extra et que je trouve une meuf, c'est qu'il est bon. Et je rentre avec une meuf, Jennifer, avec qui le sexe était cool.
Okay.
C'était vraiment cool. Dont des expériences assez cool, assez folles. Moi, je me rappelle d'une nuit où j'ai bouffé des champis. Et on a baisé, mais 8 heures, quoi.
Alors, la drogue, c'est mal.
Oui.
Hein,
ouais.
Faut pas,
c'est pas bien, les gens.
Il ne faut pas se droguer. Hein,
non, voilà. Non, mais en plus, c'est vrai que j'en fais pas du tout. Hein, au contraire, hein, mais c'est, voilà, je raconte tel que c'était à ce moment-là, de toute façon. Et du coup, je me rappelle de cette nuit qui était mythique. C'est-à-dire que j'ai couché avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes. C'était énorme. Tu sais, ces trucs, tu pourrais raconter à tes potes. Bobo, t'es rentré, ces trucs de gros beauf où ils font tous croire qu'ils ont vraiment fait ça. Ça m'est arrivé une fois. Hein, moi, j'étais défoncé, donc forcément, ça aide. Et c'est génial, je me rappelle de cette nuit encore, quoi. C'est-à-dire j'arrêtais pas, je rebandais, mais on baise une première fois, ça dure 10 minutes comme quand tu baises une première fois, quoi. Voilà, quand t'as pas fait de l'amour depuis quelques jours. Elle va à la salle de bain pour se nettoyer, pour pisser, elle revient, j'étais déjà reparti, elle fait, mais non, hop, c'est reparti une deuxième fois, une troisième fois, mais ça fait toute la nuit, c'était génial. Ça, c'était vraiment une des nuits de sexe, je m'étais pas souvenu depuis longtemps de celle-là, c'est cool de s'en rappeler. Non, et du coup, cette nana-là, après, bah, pareil, moi, j'ai vraiment pas eu de chance avec les meufs. J'ai choisi forcément des schémas qui étaient très compliqués. Elle m'a trompé, ça s'est mal terminé, elle m'a lâché comme une merde, et moi, je suis sensible comme pas deux, donc j'ai pris super cher. Qu'est-ce qui se passe après? Après, j'entame mon nouveau boulot. C'est qu'en fait, en gros, le boulot que je fais maintenant, mon beau-père faisait ce métier-là.
Okay.
Il a une très grosse boîte là-dedans.
Donc le mec de ta mère?
L'ancien mec de ma mère, quoi, en fait, à ce moment-là, okay. Le père de ma demi-sœur. Et moi, j'avais tout perdu. Mon père était venu me chercher avec une batte de baseball dans mon appart pour venir me sortir de tout de ça. Ce qui a eu un effet génial. Quoi. En plus, c'est pas son genre, hein, donc c'est genre, il m'a dit. Voilà, c'était assez drôle. Ça m'a fait beaucoup de bien qu'il vienne, en fait. Ça a été très déclencheur de savoir que quelqu'un était là. Et j'ai perdu un boulot, j'ai perdu mon appart, donc, et tout. Et là, il y a mon beau-père, mon ancien beau-père, qui m'appelle et qui me dit, voilà, Erwan, est-ce que ça te dit de venir bosser chez nous? Pour apprendre le métier que je voulais faire quand j'étais petit, parce que moi je vous voyais faire des effets spéciaux depuis tout petit. Donc okay. Là, ça se fait. Et là, je fais ok, c'est ça qui va me sortir de la drogue. Je me mets à fond dans le taf et tout, et j'arrête. Bon, sauf que c'est un milieu de gros défoncé, donc c'était. Voilà. Mais en gros, moi je me défonce pas au boulot.
Et surtout, t'apprends un métier.
Bah, j'apprends un métier. Bon, j'avais déjà la cuisine dans les mains.
Oui, mais je veux dire, t'apprends le métier que tu voulais faire.
Voilà, c'est ça. Bon, la cuisine est une autre passion aussi. Hein. C'est deux passions que j'ai que je continue à avoir en parallèle de toute façon. Et là, je rentre dans cette boîte-là. Je me défonce. En fait, c'est pas beaucoup se défoncer quand tu pars de toute l'année, ça devient plus que 4 jours par semaine, puis plus que 3 jours, vif, etc. Puis voilà, je changeais de milieu en fait. Pendant les années, j'ai changé de plus en plus de milieu en trouvant des gens qui se défonçaient de moins en moins la gueule. Donc en gros, je sautais de milieu en milieu, j'abandonnais les gens au fur et à mesure.
T'es influençable par rapport à ça ?
Non, je pense pas.
Tu maîtrisais ta consommation ?
Ouais, c'est moi qui maîtrisais ça. C'est pas une histoire d'influence, c'est une histoire de changer de milieu. On peut pas s'arrêter sans changer de milieu, je pense que c'est impossible. Ouais. Les gens ne comprennent pas, mais moi j'ai arrêté du jour au lendemain après, vraiment d'un coup sec, en rencontrant une nana, on y reviendra aussi. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça. Mm-hmm. Et là, il y a eu Renata. Renata. Renata, et là.
T'en parles avec les yeux qui brillent.
Hein. Ouais. Alors, j'en ai grave souffert, ça a été une vraie saloperie avec moi à la fin au niveau relationnel. Par contre, niveau cul, c'était brésilienne. J'ai un truc avec les brésiliennes, de toute façon. J'ai toujours pas le même âge, je dois avoir 21 ans, elle en a 26 aussi. Et c'était la meuf de la boîte, sauf que moi je m'entendais pas avec. Et moi au boulot j'étais un roquet, c'est-à-dire que je passais la moitié de ma semaine en descente et je gérais un des points névralgiques de la boîte parce que tout de suite moi j'ai voulu monter direct en échelon, donc j'étais à donf, c'est comme un ouf. Donc je m'embrouillais pas mais.
Et puis t'avais tes preuves à faire.
Ouais, et puis en fait, j'étais horrible, quoi, franchement. Je me suis excusé platement à la fin de ces 2 ans là-bas à des gens. Vraiment, quoi, sincèrement, parce que voilà, je pouvais pas faire autrement, mais j'étais hardcore, quoi. Donc elle, on s'embrouillait tout le temps, elle faisait que des conneries au taf, toutes les conneries qu'elle faisait. Moi, je prenais 3 heures dans la gueule le soir, donc je peux dire que je me la farcissais à chaque fois. Et un jour, on boit boire un coup avec tous les gens du boulot. Je me retrouve en face d'elle dans ce bar-là. Et là, on commence à tchatcher.
Elle te plaisait physiquement ?
Ouais, ouais, carrément. Ouais, très, très, très belle femme. Vraiment très belle femme. Et là, je sais pas, on se met à parler de cul. Et là, en fait, je lui parle de cul comme si j'étais en train de lui faire l'amour, quoi. Je lui explique exactement comment je marche, tout ce que je fais, okay. Bim, bam, boum, etc. Et ça, j'adore faire ça.
Okay.
Ça, c'est un truc, j'adore parler de cul déjà. Je me suis un peu calmé ces derniers temps, mais j'adore ça. C'est un sujet de discussion que je peux avoir énormément. Je me suis nourri pendant des années à aller dans les. On y viendra après, dans plein de milieux, dans plein de choses pour pouvoir me nourrir de ça. Et donc, on parle de cul, et là, j'y vais, quoi.
Et elle a du répondant.
Ouais, il y a du répondant derrière. Brésilienne, donc elle lui.
Pas de généralité.
Oui, ouais, pas de généralité, mais moi. Bon. Non, mais dans le sens où il y a un rapport au corps ouais, au Brésil différent. Qui est vraiment différent, et à bien la sûr. Sexualité, à l'amour aussi. Mm-hmm. Ils ont une 60aine de mots pour définir l'amour, c'est génial, hein, selon c'est comment ordinaire. Ça se passe. Donc, du coup, les relations sont différentes puisqu'elles sont définies.
C'est vrai.
Du premier rendez-vous, premier baiser, où est-ce que tu habites chez l'un ou l'autre, il y a des mots différents, il y a des nuances de mots okay. différents, c'est génial. Ouais. Mm-hmm. Donc, en fait, du coup, il y a. Je dis 60, c'est peut-être moins, mais il y a beaucoup de mots, en fait, on va dire beaucoup. Et puis moi, en fait, je me rends pas trop compte de ce que je fais. En fait, c'est la première fois que je le fais, ça, de parler de cul à une nana comme ça.
Aussi de façon cash.
Ouais. Donc je me rends pas compte, je la drague en fait.
Puis en plus, dans ton périmètre professionnel, donc.
Ouais. Puis je la supporte pas en plus normalement.
Normalement.
Tu vois. Et tout le monde se barre, on continue, on va dans un autre bar, un troisième bar. Et moi, naïf comme je suis, je la raccompagne chez elle. Elle a sa porte, je fais « Salut !» Elle me chope le bras, elle fait « Mais tu crois que tu vas partir ?» Et là, elle m'emmène. Tu m'as
chauffé toute
elle
la soirée.
Ouais, voilà, toute la soirée, elle m'emmène et tout. Et moi, à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à mettre des capotes parce que ça me faisait déborder. Donc du coup, il n'y a pas de pénétration, mais il y a
tout ce qui va
cunis,
avec.
Machin. Moi, j'étais à l'époque, j'étais fou furieux du cunis, donc j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'adore ça, machin et tout. Et puis, pendant longtemps, en fait, on n'arrive pas à faire l'amour de façon avec pénétration, on va dire, puisque pareil, bah, la capote, ça venait pas, quoi. Mm. Mais ça arrive assez vite. Et en fait, relation cachée au boulot. Bah, déjà très sûr. Excitant. Et on baisait, mais tout le temps, quoi. Tout le temps. Puis libre avec son corps plus vieil que moi, expérimenté. Et on ne s'arrêtait pas, quoi. On ne s'arrêtait pas. C'était chez elle, partout où on pouvait trouver. On baisait. Et c'était génial, quoi. Ça a duré 3-4 mois comme ça. Mm-hmm. Puis après, moi, j'ai commencé à tomber amoureux, vraiment, quoi. Je commençais vraiment à être. Mais c'était quelqu'un qui... Il y a un schéma qui se répète, c'est que j'ai entendu un de tes invités qui a dit ça un peu, mais moi c'est un peu ça, c'est les nanas qui n'ont pas eu de père, ou alors qui ont...
Ah oui.
Dont le père était... Dont le père est, son père était parti acheter des clopes, vraiment le basique là, et jamais revenu. Et du coup, bon voilà, il y a ce schéma qui se répète chez les nanas que j'ai eu, et donc elle après, bah en fait c'est... Moi j'ai une peur de l'abandon, panique, etc. Puisque aussi ma mère m'a aussi abandonné à un moment de ma vie où elle a disparu quand j'avais entre 4 et 7 ans. Ou 6 ans, je crois, 6 ans, etc. Donc voilà, il y a une très grosse peur de l'abandon.
Avec des nanas qui ne sont pas rassurées de leur côté.
Voilà, et elle m'a... Okay. En plus, au boulot, donc on se voit au boulot. Donc là, ça a été l'horreur. Et ça a construit beaucoup ma façon de me mettre en relation derrière, en fait, ce type de relation-là, en fait, avec des femmes très libérées sexuellement. Donc moi, ça me fait très peur, du coup. Parce que du coup, il y a y a une peur d'aller voir ailleurs, d'être à l'aise avec ça, etc. Très peur d'être abandonné plus que trompé, en fait. Je crois que c'est l'abandon dans la tromperie qui me.
L'abandon sentimental.
Ouais, l'abandon dans tous les sens du terme, en fait. Après, ce qui se rapproche énormément là-dessus, il y a des peurs qui viennent énormément dans la sexualité là-dessus de ma mère, en fait, puisque, en fait, ma mère, pour rajouter là-dessus, se taper un nombre de mecs incalculable, a dû tromper mon beau-père de façon, je sais pas combien de fois. Donc, du coup, j'avais le droit à tout avec ma mère, j'étais tout. J'étais son ami, son confident, son fils et son mari, quelque part. Sauf la pénétration, sauf le fait de faire l'amour avec. Donc ça, c'était le droit de tous les autres hommes.
D'accord.
Voilà. Donc ça a construit beaucoup ma façon de me mettre en relation. Et les peurs qu'elle a avec, en fait. Mais à cette époque-là, le cul, ça va. Tu vois, j'ai pas trop de soucis avec le cul. Je bande bien, je jouais pas trop vite. Voilà, il y a aucune peur par rapport à ça.
Tu restes sur une sexualité qui est un peu hétéronormée, ouais. Femme-centrée. T'es pas encore partie dans dans des sexualités alternatives ?
Non, pas encore. Non, non, pas à ce moment-là. Est-ce que j'y pense à ce moment-là ? Ouais, on peut peut-être. Non, pas plus que ça. Non, je pense que là, c'est très vanille. Je t'ai entendu le dire plein de fois, donc je me permets de le dire sans explication. Mais bon, de toute façon, c'est une découverte tellement géniale déjà. Pourquoi aller plus loin à ce moment-là ?
Puis,
puisque
puis
déjà...
là, t'es une des rares fois où tu vas vraiment lier sentiment et sexe.
C'est ça.
Avec
exactement.
Renata. Donc,
ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis du bon sexe, quoi. C'était vraiment. Ouais, c'était cool. C'était cool. Mais pas d'orgasme, tu vois, pas ce truc-là que j'avais vécu. Donc, voilà. Mais c'était cool quand même, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait un laisser-aller. Mais au fur et à mesure de mes relations, il y a beaucoup de peurs qui sont mises en place, de moins en moins de laisser-aller.
En puis... fait, c'est... ah oui, t'as un schéma inverse. Généralement, tu commences avec des peurs.
Ouais, moi,
etc.
C'est le contraire. Ouais. Mais là, moi, je suis dans un. C'est très particulier de venir là maintenant.
Ouais.
Et ça, je voulais le dire. Quand je voulais le dire, je voulais te le dire. Ouais. C'est pas forcément pour le dire, mais te le dire. C'est que là, moi, je suis en train de te parler alors que je suis dans une des périodes les plus compliquées de ma vie au niveau sexuel.
D'accord.
C'est-à-dire, on va en parler aussi. Hein, parce que... Ouais, ouais, c'est là, je suis dans une période, c'est très compliqué de parler de cul pour moi, pas dans le sens machin, mais il y a du lourd, il ouais, y a un poids, tu vois, au moment où j'en parle. Parce que...
D'accord.
Donc, Renata. Et après Renata, il y a eu quelques... Alors, il y en a plein, je vais en sauter plein.
L'humour avant
désolé.
Tout.
Désolé. Non, non, mais j'ai pas fait du tout exprès, je le disais, c'était pas de l'humour, mais je vais, oui... Je vais en oublier plein et exprès en fait parce
d'accord.
que ça va aller aussi dans le sens de ce que j'ai pu ressentir pour moi pendant toutes ces périodes là donc j'alterne beaucoup de périodes de célibat, je suis pas beaucoup en couple, des couples qui durent pas longtemps du tout, donc Renata ça a duré quelques mois.
À chaque fois tu racontes ton passif à ces femmes?
Ouais, tout ça elles sont au courant, ça c'est quelque chose qui est pas caché. Ouais, c'est quelque chose qui...
Tu penses que ça en a fait fuir certaines?
Non, je pense pas. Non je pense pas. Non, je le dis plus aussi facilement, aussi rapidement. J'attends le bon moment maintenant plutôt que de lâcher le truc. Mais il y a plein de choses que je garde maintenant pour moi. J'ai appris à avoir un jardin secret. Bon, sauf là, je suis en train de te lâcher tout, mais c'est le but
okay.
aussi.
Mm-hmm.
J'ai vu ma psy aujourd'hui, on en a parlé et tout. Tu vois, tout a été bien. C'était le sujet.
T'as eu la valide.
Et du coup.
Donc, t'as cette période là où t'alternes des nanas,
ouais,
mais c'est pas des histoires.
Pas vraiment, mais en plus, j'alterne pas tant que ça. Voilà, ouais. c'est un peu le désert. Surtout qu'en plus, ta séparation avec Renata, moi, me détruit, quoi.
Ça dure combien de temps, cette période ?
Je sais pas, je pourrais dire, attends, les âges, tac, 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 3 ans.
Mm-hmm.
3 ans. Et là, je me mets sur Adopte un mec. Adopte un mec arrive.
Bien
je suis
sûr.
Au tout début. Et il faut savoir que Adopte un mec, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les mecs qui ont monté ça, le premier milieu qu'il y avait dessus, c'était tout le milieu gothique BDSM parisien qui a été mis dessus. Donc, j'ai toujours été par alternance dès que je suis plus en couple. Je tombe sur Christelle. On se rencontre. Et en fait, moi, à ce moment-là, il y avait un gars à mon taf. Ouais, avant, il y avait un gars à mon taf qui faisait des photos dans le milieu BDSM, en fait. Et je voyais ces photos. Ah oui, puis pour revenir, attends, il y a un truc à revenir en arrière qui va exactement à ça. Et je voyais ces photos. Et je trouvais ça fascinant. Voilà. Mais en fait, cette fascination était déjà arrivée avant. Parce qu'en fait, génération Matrix. Le moment où elle suit le lapin blanc, elle arrive dans la soirée où il y a Rob Zombie qui passe là et qu'il y a tout le monde en cuir vinyle latex, je me rappelle être dans mon fauteuil, être comme ça, donc je dois avoir 14 ans à ce moment-là,
ouais.
Et faire un jour, je serai dans cette soirée.
Celle-là, voilà. Là.
Et j'ai kiffé direct.
D'accord.
Mais un truc de ouf.
Donc le vinyle, les matières, etc.
C'est pas le côté matière, c'est l'ambiance vraiment dark, sexuelle sans être sexuelle. Il y a un truc vraiment, tu vois, il y a quelque chose qui vient racler au fond, là, tu vois, vraiment quelque chose qui est vraiment dans le background du background du background. Donc vraiment, j'ai vraiment kiffé cette ambiance et donc ça m'a suivi très longtemps. Et j'ai même dit, je me rappelle, soit je lui dirais, soit j'organiserais un truc comme ça. C'était vraiment dans ma tête, c'était très clair. Et donc
ce mec fait des photos, ça te fascine?
Ouais, ça me fascinait. Un mec avec qui je m'entendais pas du tout au taf, mais voilà, du coup, je voyais ses photos, je disais, putain, c'est trop cool. Et je rencontre cette meuf, et en fait, elle est serveuse aux Nuits Élastiques. Donc, je sais pas si tu connais ces soirées-là.
Non, je n'ai pas ce plaisir.
Voilà. Donc, les Nuits Élastiques, c'est des soirées
toutes les invites.
BDSM parisiennes qui sont historiques. Hein. Et elle était serveuse dans ces soirées-là. Elle faisait le bar. Donc, là, je rentre dans ce milieu-là. Et là, mais là.
Révélation.
Bon, le kiff. En fait. Moi, sexuellement, on va être très clair, j'ai très peu pratiqué à ce niveau-là. Par contre, j'étais fasciné. Et donc, je me suis mis, j'ai mis mon petit habit de sociologue en cuir vinyle latex. Et j'étais là, monsieur, pourquoi ?
Pourquoi tu fais ça,
et pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? J'adorais ça. Ça a été génial. En gros, en plus, avant d'y aller, elle me parlait et tout. Et donc, ça a commencé assez fort pour moi parce qu'elle me parle d'un mec qui s'appelle Dr. Foot. C'est un mec qui adore lécher les chaussures, toucher les chaussures, les pieds, etc. Et il est fan des Stan Smith et des bottes d'équitation. Et j'arrive, et moi à l'époque, j'ai toujours adoré me fringuer, donc je connais d'où viennent mes fringues et tout. Et j'ai des bottes qui sont une marque Sancho, qui est une marque mexicaine, mais l'usine étant, je sais pas où. Je te dis ça parce que ça a son importance. Et là, un mec m'approche, super cool. Il me fait, mais je peux te parler? Je fais, ouais, bien sûr, pas de souci. Il fait, écoute, c'est quoi tes bottes là? Et là, je lui fais l'historique des bottes, quoi. Mmh. Et là, je vois le mec.
Aïe.
Alors, je fais un geste là où la bave coule de machin. Il me fait, écoute, je peux te proposer un truc? Je fais, vas-y. Pendant qu'on continue à discuter, je peux lécher les bottes? Je fais, ouais, carrément, je fais, t'es pas docteur foot, toi? Il me fait, comment tu sais? Je fais, bah voilà, ma meuf, c'est Christelle qui est au bas, d'accord. Et on continue à parler. Donc, moi, je suis comme dans le canapé là, les pieds en avant. Et le mec me parle. Et là, il me demande, mais t'as marché où dernièrement? Alors, je lui explique ma journée. Et là, il m'explique que son délire, c'est de savoir sur quel insecte j'ai marché. C'est ça qui l'excite, tu vois, c'est les insectes.
Ok, donc là, on est vraiment très loin.
Ah, c'est spécial, quoi. On est sur des gens qui ont des spécialités.
C'est vraiment la niche.
Ouais, on est... ouais, mais il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup. Quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que c'est plein de petites niches, en fait. Et moi, je me passionne, en fait.
Le mec, attends, on est ok, ouais. Le mec te demande sur quel insecte tu as marché.
Ouais, donc moi, je réponds, je peux raconter ma vie, où j'ai passé ma journée, donc ça le fait marrer, il s'imagine.
On est quand même à Paris.
Oui, il se dit que, voilà, je raconte, c'est pas okay. grave, le mec, ça okay. lui fait son
fait
imaginaire. Et moi, j'adore être au service à ce niveau-là, je me dis, mais.
Et là, ce mec-là est dans, au-delà de la blague qu'on en fait, parce que c'est quand même hyper particulier, lui, il a une vraie excitation sexuelle de ça.
À ce moment-là, je suis pas sûr. Ouais, attention, on a dans les. Quoi, attention, pas attention, mais. Là, il faut voir c'est quoi l'excitation dans le fétichisme. Il faut voir où elle se place.
Et je te pose la question. Comment...
Bah du coup, moi, à ce moment-là, c'est pas genre il bande, il se branle, il te regarde, il se branle.
C'est ça.
Tu vois, voilà,
c'est
pas.
C'est très cérébral en fait.
Oui, c'est très cérébral. Il y a très peu de rapports sexuels dans les soirées BDSM.
Mais il y a peu de pénétration.
Il y a peu de pénétration. C'est très peu phallocentré. On est.
Voilà. Et il y a peu de jeux. Il y a peu de sexe génital, des choses. Enfin, de sexe bucogénital, pardon. Il y a peu de choses comme ça.
Plus parce que là, il y a une histoire de la soumission un peu qui peut se mettre aussi un peu en place. Et donc moi, j'arrive dans ce milieu. Bah alors là, voilà. Mais moi, c'était la teuf, quoi. C'est génial. Moi, je me dis, mais comment on peut en arriver là?
Merci infiniment à Erwan pour sa confiance et pour cette ouverture d'esprit incroyable dont il fait preuve. Vous venez d'écouter la première partie de son témoignage. La prochaine sera disponible dans une quinzaine de jours. Je sais que cet épisode a dû être difficile à écouter. N'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur les réseaux sociaux ou même par mail. On prendra le temps d'en discuter si vous le voulez bien. Je vous souhaite donc un bon confinement et à très bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.